Eh oui, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous allons échanger à présent autour de, voilà, des échauffourées qu'il y a eu dans la province du Lualaba depuis le lundi dernier. Voilà, les créateurs artisanaux sont descendus dans la rue. Il y a eu des affrontements, les commerces étaient fermés, les écoles, tout ça, parce qu'ils étaient en colère contre la décision du ministre de Mines de suspendre momentanément les entités de traitement de la filière cupro cobaltifère issue de l'artisanat. Mais aujourd'hui, cette décision a été partiellement levée. On en parle avec Monsieur Franck Fouamba, chargé des missions du ministre des Mines et président de la commission pour le contrôle de la chaîne d'approvisionnement des entités des traitements du secteur cupro cobaltifère. On aura également Maître Shadrach Moukad Mouai Ennaou, coordonnateur national des Kasmia G. Asbel, et puis président et porte-parole du cadre des concertations de la société civile du Lualaba. Des questions et préoccupations composées déjà les 089-55-98-337. Grâce à Mvouezolo, coordonne et réalise cette émission. Pierre Diassino à la mise en onde. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Okapi, fréquence de la paix.
Bien, dans la province du Lualaba, la mesure du ministre des Mines suspendant les activités minières et des commercialisations des entités de traitement de la filière cupro-cobaltifère issue de l'artisanat a été partiellement levée. C'est là, après des manifestations de colère des créateurs artisanaux dans plusieurs coins de la province. Les écoles et commerces sont restés fermés après les affrontements avec la police. Certains véhicules ont été calcinés, des bus caillassés. Profitant de la situation, des inciviques ont tenté de piller les magasins. Il y a eu même pillage dans certaines zones. Alors plusieurs blessés graves et de nombreuses arrestations ont été enregistrées selon nos autorités. Quelles sont les conditions pour qu'une unité de traitement des substances minérales issues de l'exploitation artisanale puisse fonctionner en toute légalité? On commence avec Maître Shadrach Moukad Mouai Ennaou, coordonnateur national de Kasmia G. Asbel, qui veut dire tout simplement comprendre et agir dans les secteurs minier, industriel, artisanal et de la gouvernance, et président et porte-parole du cadre des concertations de la société civile du Lualaba. Maître Shadrach Moukad, bonjour. Voilà, Maître Shadrach n'est plus en ligne, on va tenter de l'avoir dans les minutes qui suivent. On aura également monsieur Fouamba, voilà, qui va intervenir. Il est chargé des missions du ministère de Mines. Il va intervenir dans quelques instants. Vous avez des questions et préoccupations, appelez-nous déjà au 089 55 98 337.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion.
Bien, donc voilà, tel que je le disais tout à l'heure, nous allons parler de la situation qui prévaut dans la province du Lualaba. Monsieur Franck Fouamba, bonjour. Bien, on va commencer avec Monsieur Franck Fouamba, qui est chargé des missions du ministre des Mines et président de la commission pour le contrôle de la chaîne d'approvisionnement des entités des traitements du secteur cupro-cobaltifère. Monsieur Franck Fouamba, bonjour.
Écoutez, c'est...
Voilà, je pense qu'il n'est pas encore en ligne. On va continuer à insister pour l'avoir et puis pour qu'il nous dise, voilà, nous parler de cette levée partielle de cette mesure suspendant les unités de traitement des produits miniers issus de l'artisanat. Maître Shadrach Moukad Mouai Enna, bonjour.
Bonjour, Monsieur Diodi.
Bienvenue dans cette émission. Alors, la province du Lualaba venait de passer un mauvais quart d'heure et était plongée dans la tourmente depuis le lundi dernier à cause de cette mesure suspendant les entités de traitement des produits issus de l'artisanat. Quelle est la situation aujourd'hui à travers la province?
Merci, Monsieur Jody. Oui, comme vous le dites, à partir du lundi, la province était dans la tourmente, mais pour le moment, il y a eu des efforts fournis par les autorités en matière de sécurité pour essayer de gérer la situation, et nous pouvons dire que il y avait plus de mal que de peur. Il y avait plus de peur que de mal plutôt. Il y a eu beaucoup de manipulations, il y a eu beaucoup une mauvaise interprétation de l'affaire qui a fait que certains créseurs artisanaux qui revendiquaient leurs droits ont essayé un peu de lancer beaucoup de messages de menaces. Ils ont eu à attaquer certains biens privés et piller certaines alimentations, mais aujourd'hui la situation est au contrôle, le calme est en train de revenir. Les enfants ont repris l'école normalement et nous pouvons dire que la situation se normalise pour le moment dans la province, particulièrement la ville de Kolwezi et la commune de Fungurume, qui étaient les bastions de ces mouvements ou de ces manifestations. Et j'ai vu ce matin, Moulikap a repris les transports, ce qui signale un signal fort, comme il avait suspendu suite à l'insécurité. Aujourd'hui, j'ai trouvé que la commune de Fungurume, il y a un calme absolu, tout comme dans la ville de Kolwezi.
Voilà. Et quelle est la situation ailleurs, à Luilou et dans d'autres localités?
Ah oui, ce sont certains quartiers de la ville, c'est du côté Kanina, Luilou, c'est là où il y avait plus de poches de résistance ou de manifestations, mais pour le moment, et comme je vous ai dit, c'est parfois, nous pouvons dire, les réseaux sociaux n'ont pas joué un bon rôle, c'est vraiment un poison. Les réseaux sociaux ont relayé des messages, parfois qui étaient des messages que je peux qualifier qui étaient déjà expiré, mais les gens continuaient à les partager, ce qui faisait que nombreux pensaient que la situation était toujours tendue, parce que des amis de partout appelaient pour dire, mais on apprend ceci. Je leur disais non, ce que vous avez que vous me partagez là, c'est des messages qui devaient être exécutés dimanche, lundi ou samedi, mais nous sommes mardi, donc c'est déjà périmé. Et ces messages continuent à être relayés jusqu'à ces jours. Il y a eu autant de montages, vous savez, certains ont même monté de faux messages pour dire que le ministère de l'éducation provinciale avait suspendu les cours pour une semaine, alors il n'en était pas le cas, parce que c'était juste un message monté, je ne sais de quel laboratoire, qui avait pu déstabiliser les cours normaux de la scolarité des enfants. Mais aujourd'hui, la situation, je vous dis, de manière générale, la vie a repris dans la ville de Kolwezi et même dans les quartiers où il y avait une résistance ou des poches des manifestants.
Bien. Alors, pourquoi les créseurs, les artisanaux avaient mal accueilli cette décision du ministre des Mines suspendant les entités de traitement de la filière cupro-cobaltifère?
Monsieur Diodi, il faut comprendre qu'il y a eu d'abord une mauvaise interprétation de l'arrêté de son excellence, monsieur le ministre. Pour plusieurs, c'était communiqué que le ministre a suspendu l'exploitation minière artisanale. C'était ça le message qui était répandu partout. Voilà de quelle façon on a communiqué aux créseurs. Mais alors que l'arrêté en soi concernait, ne visait que les entités de traitement ou de transformation des minéraux issus du secteur artisanal. Mais il est vrai, bien que les créseurs n'étaient pas visés ou l'exploitation minière n'était pas visée, c'est seulement parce que bien que l'arrêté concernait, c'est suspendait les activités des entités, et pourtant c'est dans une chaîne lorsque un maillon est touché, et c'est toute la chaîne qui est endommagée. Et par le fait que les entités ne pouvaient plus encore opérer, ne pouvaient plus encore travailler, ce qui fait que cette décision avait son effet ou ses effets étaient directement touchés aussi les exploitants miniers artisanaux. De quelle manière, vous savez, pour qu'on achète du minerai, ce qui sponsorise les négociants ou les acheteurs, ce sont ces mêmes entités qui donnent de l'argent aux négociants qui vont acheter auprès des exploitants miniers, auprès des coopératives, pour venir approvisionner les entités. Et du moment, brusquement, les entités ferment, donc même les négociants, il va dire, même s'il a son argent, il va acheter pour amener où? Parce que c'est là les consommateurs au niveau local. Voilà ce qui a fait que la décision a touché aussi de manière indirecte, les exploitants miniers artisanaux. Et pour eux, ils ont compris qu'ils devaient manifester leur mécontentement parce qu'ils étaient coupés dans leurs opérations et pour demander qu'on libère, qu'on puisse lever la mesure au profit des entités de traitement et à leur tour, ils pouvaient bénéficier des fonctionnements du secteur à travers l'argent qui vient des entités. Et cet argent pouvait leur permettre de travailler, vendre du minerai, ainsi que les opérations devaient être comme toujours.
Bien, mais selon les informations reçues, ces entités de traitement sont plus tenues par des sujets chinois qui ne travaillent pas dans la légalité. Et c'est eux qui fixent le poids, les prix, tout ça, les taux d'humidité, etc. Sur base de quel mercurial ils arrivent à fixer, à acheter tous ces minéraux. Il y a encore beaucoup de soucis là, dans ce secteur-là.
Et c'est vrai. Cela est vraiment vérifiable. Vous savez, nous avons essayé, nous, au niveau de notre organisation Kasumi AG, échanger avec des coopératives minières. Nous leur avons aussi rappelé qu'il est vrai, même les coopératives ne sont pas contre les soucis de réglementer les secteurs ou comme l'objet de l'arrêté était qu'on puisse essayer un peu de que ces entités puissent se conformer à la loi de la République. Nous sommes un État. Quand il y a des sujets chinois, indo-pakistanais ou libanais qui détiennent ou qui ont des entités, des traitements ou des transformations, ils doivent se conformer à la loi du pays. Ils ne doivent pas être des princes dans notre pays. Et ça, nous soutenons. Et la mission, elle était noble. Et aujourd'hui, j'ai les rapports qui m'ont été transmis par nos collègues qui ont participé à la commission des vérifications de la légalité de l'exploitation de ces entités, il est vrai que la majorité, si pas toutes les entités, sont dans l'irrégularité. Et ce n'est pas acceptable dans un État. Et il faut comprendre que, et c'est pourquoi nous devions faire comprendre à ceux qui manifestaient que le souci de réglementer les secteurs, c'est un souci noble. Et nous avons échangé avec des coopératives, parce que toutes ces années, les coopératives ont toujours dénoncé des mauvaises pratiques dans le chef de ces entités de traitement qui souvent, je peux donner un exemple, nos amis coopérateurs, quand ils amènent du produit, ils vous disent qu'il y a un Chinois qui est à la porte, vous n'entrez pas, qui entre dedans et revient avec vous, il vous donne les données comme résultat des analyses ou des analyses de Metorex et d'autres appareils qui ont été utilisés à l'intérieur et vous acceptez et d'ailleurs ces résultats vous sont communiqués en chinois, alors que des Congolais ne savent pas lire, ne savent pas déchiffrer l'alphabet chinois. Oui. C'est des pratiques qu'il fallait décourager. Et je pense que, du point de vue de la légalité, ces entités sont dans l'irrégularité. Il fallait qu'ils se conforment à la loi du pays. Et si le ministre veut aider que nos amis coopérateurs, exploitants miniers, se retrouvent, et c'est bien d'accueillir cette nouvelle et cette mission et collaborer avec l'État congolais pour normaliser il y va du rôle de l'État congolais pour protéger les Congolais et que les Congolais puissent trouver leur compte pour ce qu'ils minéraient et aussi ces gens-là qui détiennent des entités, ils ne doivent pas exploiter les Congolais. Nous voulons voir que les minéraux profitent aux Congolais. Les artisans, créateurs que nous appelons, puissent, lorsqu'ils exploitent, c'est un travail dur. un travail très dangereux. Et il faudrait, lorsqu'ils produisent et qu'ils vendent, il faut qu'ils trouvent leur compte. Et voilà ce que nous avons, nous, à notre niveau. Nous estimons que l'objectif poursuivi par les ministres, c'est un objectif qu'il faut soutenir, parce que tous ces temps, de notre côté, en tant que société civile, nous avons toujours plaidé autant de fois qu'on puisse réformer les secteurs. La réforme du secteur minier artisanal, c'est une mission, c'était un besoin énorme pour la province du Lualaba, tout comme pour la province du Haut-Katanga, dans la filière cuprocobaltifère.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons de la levée partielle de la mesure interdisant le fonctionnement des entités de traitement des minerais issus de l'artisanat. Et quelles sont les conditions de fonctionnement aujourd'hui d'une unité de traitement des minerais qui provient de l'artisanat? Nous allons accueillir M. Franck Fouamba tout à l'heure. Entre-temps, nous allons donner la parole aux auditeurs. Achille nous appelle de Lumbashi. Bienvenue Kikala et Takikuit, Gaston Gandou à Kinshasa et Marie-Paul à Kisangani. Achille de Lumbashi, bonjour. Et quelle est votre question? On vous écoute, Achille.
Merci pour la parole. Alors, nous vous suivons avec difficulté, mais les propos de l'invité, on n'a même pas bien suivi. Hein.
Ok.
Alors, on aurait quand même voulu avoir comme invité le ministre des Mines pour nous expliquer les bien fondés de cette mesure. Bon. Alors,
Monsieur Franck sera là, qui est le président de la commission instituée par le ministre. Il nous donnera beaucoup plus les éléments tout à l'heure.
Oui, parce que si je l'ai dit comme ça, c'est pour éviter, quand il y a des questions des auditeurs, que moi je ne suis pas bien placé pour répondre à cette question-là. Voilà pourquoi je l'ai dit.
D'accord, allez-y.
Alors, vous voyez déjà la conséquence lorsqu'on prend des décisions sans consulter les personnes concernées. Et si j'ai fait même allusion aux nouvelles plaques, vous savez, quand on prend des décisions sans consulter les gens qui sont concernés, ça crée toujours des dispositions. Et les résultats bien réels. Condamnant les actes du vol et quoi et tout comme ça. Mais toutefois, c'est un signal fort pour des dirigeants qui pensent qu'ils sont plus forts que le peuple. Lorsque le peuple décide de prendre les choses en main, les résultats ont toujours été réels. Donc, vous savez, quand on prend des décisions pareilles, il faut toujours peser les conséquences. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle, il y a des trafics de Lumbashi, c'est pas qu'il y a des artisanaux là. Je pense pas que ceux qui exploitent les minerais à la main vont finir les mineurs que ceux qui exploitent avec des machines. Mais je pense qu'il y a des conséquences graves. Je pense qu'il faut toujours bien revoir comme ils ont revu cet arrêté là. Moi, je pense que c'est une bonne chose.
Merci Achille. Bienvenue Kikala de Kikuit. Bonjour. Quelle est votre question rapidement?
Bonjour, cher. Je dis bonjour à tous. En suivant le métier de la société civile, j'aime dire la décision du ministre n'est pas tellement mauvaise. Néanmoins, comme on dit souvent, gouverner, c'est prévoir. Cette décision peut-elle être bonne, mais tant qu'il n'a pas été suivi des mesures de l'information, je dirais même il y a eu des déficits communicationnels. C'est là qui devient en réalité être les véritables bénéficiaires de cette mesure, ce sont eux qui se sont révoltés. Je crois, à de pareilles circonstances, le ministre, avant de prendre d'abord son arrêté, peut-être il aurait pu procéder à une campagne de sensibilisation pour que les gens sachent les bien fondés de cette décision. Voilà qu'une décision sorte comme ça et qu'il y a le monde qui s'en fout. J'ai suivi le monsieur venait de dire, il y a aussi la mauvaise contribution des réseaux sociaux. Lorsqu'on dirige en plein 21e siècle, quand on prend une décision, je crois, on doit analyser tous les tenants et les aboutissants pour que ne pas aujourd'hui qu'on incrimine les réseaux sociaux parce qu'on savait qu'on devait faire avec. Moi, j'estime que là, le ministre n'a pas eu cet esprit anticipatif pour faire précéder cette mesure d'une vaste campagne pour que les traiteurs artisanaux puissent s'approprier de cette mesure. Voilà ma contribution à cette.
Merci, bienvenue Kikala. Maître Gaston Gandou de Kinshasa, bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bon, bonjour Jody. Bon, je ne sais pas. Moi, je pense que ce sont les étrangers hein, qui viennent traiter nos minerais ici. D'ailleurs, c'est eux qui exploitent d'une manière industrielle hein, les minerais. Nous, ne sommes que dans notre tradition. Vous savez, la manière dont nous exploitons, qui est d'ailleurs à notre risque, même si on exploite de cette manière dangereuse, il faut encore traiter ça, il faut aller vendre ça, voyez. Tout cela, c'est la chaîne de valeur. Moi, je voulais un peu demander à l'invité qui est là. Et quand on parle de la légalité des structures hein, qui doivent œuvrer entre dans les domaines de traitement, là, on fait allusion exactement à quoi? Ces structures-là doivent être commerciales, j'imagine. Et est-ce qu'on peut trouver des structures commerciales animées, ou soit qui ont des animateurs, ou soit des associés et des étrangers? Donc c'est cette chose-là qu'il faut remettre en ordre. Il ne faut pas vraiment reculer quant à ça, même s'ils ont dit qu'ils ont partiellement levé la mesure, mais je pense que toutes les structures qui œuvrent dans ces domaines-là doivent être légalement connues pour payer les impôts et surtout aussi être contrôlées. Et ça doit être les structures congolaises, à mon avis. On doit militer pour ça. Mais les artisanats en soi sont ignorants. Ça prouve leur ignorance. Et d'ailleurs, moi j'imagine que, je ne sais pas si ce domaine-là est réglementé, mais j'imagine que c'est réglementé. C'est même pas autorisé que les individus partent. Je sais pas d'où ils viennent occuper des portions de terre comme ça pour l'exploiter à leur risque et péril de minerais parce qu'ils ont besoin de survivre sans contrôle de l'État. Non, il faut aussi contrôler ces domaines-là. Comment ça se passe sur l'eau?
D'accord, merci.
Mais pour
merci,
les restes...
merci beaucoup, Maître Gaston. Oui. Marie-Paul, vous êtes à Kisangani. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la levée partielle de cette mesure suspendant les entités de traitement des produits miniers au Katanga?
Je pense que la gouvernance des ressources naturelles de la RDC, c'est parmi des éléments qui constituent la forme des discordes. Et parce que les Congolais, les gouvernants congolais n'ont pas encore acquis, n'ont pas encore la gestion de ces ressources-là, nous allons assister à une ingouvernance totale. Alors, par rapport à la question des dires, bien évidemment, de traitement de mines, des artisanats, moi je pense que, en mon humble avis, ce qu'il fallait faire, c'était d'abord de pouvoir instituer la gouvernance, parce qu'on peut aujourd'hui, même si nous le disons tout bas que ce sont les Congolais qui les font, mais réellement, la valeur des mines, nous, Congolais, nous ne connaissons pas. Ce sont juste les étrangers qui utilisent les Congolais dans cette façon d'exploiter les minerais. Et du coup, ceux qui sont impliqués immédiatement par cette exploitation ne trouvent pas des dividendes. C'est parmi des problèmes. Et voilà pourquoi moi je pense que, au-delà de toutes les mesures que nous pouvons prendre en ce qui concerne les minéraux ou les ressources naturelles, le mot maître, c'est d'abord la gouvernance. Nous devons d'abord avoir la même mise dans la gestion des minéraux et du coup, les minéraux que nous vendons vont contribuer pour nous vont constituer pour nous un levier de développement. Mais aussi longtemps que nous n'avons pas encore cette gouvernance-là, quelles que soient les mesures que nous allons prendre, nous n'allons pas bénéficier de ces minéraux. Et du coup, la théorie de la malédiction des ressources naturelles ne peut qu'être au rendez-vous, ce qui n'est pas une bonne chose. Et dans beaucoup d'émissions, nous avons quand même demandé à ce que les non-gouvernants puissent se peigner de ce déficit, de cette absence de gouvernance des minéraux pour que nos ressources naturelles soient réellement le levier de développement. Malheureusement, tout ce que nous proposons n'est toujours pas pris en compte par ceux qui sont au pouvoir. C'est ça le problème.
Bien.
En fait, nous n'allons pas déposséder les gouvernants de leur pouvoir, mais ce que nous pouvons, c'est tout simplement leur demander à pouvoir faire des choses selon les règles d'art pour permettre que les ressources naturelles puissent profiter réellement dans notre vie qui continue, dans notre développement. Voilà ce que je pouvais dire au-delà de ce que les autres ont dit.
Merci Marie-Paul depuis la ville de Kisangani. Monsieur Franck Fomba, bonjour.
Bonjour, Josy.
Bien,
bonjour, vous... auditeur Radio Capital.
Bienvenue, Monsieur Franck. Vous êtes le chargé des missions du ministre des Mines et président de la commission pour le contrôle de la chaîne d'approvisionnement des entités de traitement du secteur cupro-cobaltifère. Alors dites-nous pourquoi vous avez suivi d'abord toutes les préoccupations des auditeurs. Un mot là-dessus, qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Bon, je me suis connecté en retard, je n'ai pas tout suivi, mais je sais que si je peux me référer à ce qui s'est dit déjà avant cette émission, c'est que les gens pensent que la mesure n'est pas prise en bon temps, ils pensent que le gouvernement ne devait pas le faire, ils pensent que le gouvernement devait consulter tel ou tel, ils pensent qu'on n'a pas consulté les entités, ils pensent qu'on n'a pas parlé avec tel, tout ça là. Bon, écoutez, ce sont des choses qui se racontent sur lesquelles, au nom de la liberté d'expression, chacun a le droit de le dire. Mais, s'il faut revenir sur les faits, c'est que, en février 2025 et en avril 2025, Son Excellence le ministre de Mines, c'est parti qui vit au Pacabomba, avait déjà alerté les entités de traitement et les coopératives sur les mesures qui seraient prises contre les entités de traitement et certaines coopératives au cas où elles ne s'étaient pas conformées à la loi sur ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement. Et le 13 juin 2025, lors du conseil de ministres, le 47e conseil de ministres qui a eu lieu dans la province du Lualaba, Son Excellence le président de la République, chef de l'État, avait donné des instructions claires sur l'assainissement du secteur minier et artisanal. Et parmi ces mesures-là, il y a les mesures coercitives à prendre envers les entités de traitement qui ne favorisent pas l'assainissement de la chaîne et qui contourne certaines dispositions de loi, par exemple en faveur des EGC et des RECOMS. Ça a été lu lors du compte rendu du Conseil de ministres. C'est une décision de Son Excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État. Le 8 et le 9 décembre, il y a eu des réunions de la Commission nationale de lutte contre la fraude, hier en RDC. La première réunion était présidée par Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, dans son cabinet de travail, après le discours de Son Excellence, Monsieur le président de la République, chef de l'État, sur l'état de la nation. Il y a eu une réunion qui avait duré, je pense, de 18h30 à 22h30, 23h. Dans son cabinet, le lendemain, il y a eu une réunion au lycée de Nîmes, les mêmes heures. Et au cours des deux réunions, il y avait Son Excellence, Madame la gouverneure du Lualaba, qui avait assisté. C'était pour revenir sur différentes mesures, différentes décisions qui étaient prises au niveau du gouvernement et différentes mesures et dresser une feuille de route urgente à appliquer. Appliquer pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que toutes les lettres, les correspondances, toutes les mises en garde, les moratoires qui avaient été donnés aux entités de se conformer avec les propriétaires, personne ne les a respectées. Il fallait prendre les mesures. Quand on va au point 8 de la feuille de route qui a été dressée par lors d'une réunion interinstitutionnelle. Je dis interinstitutionnelle parce que il y avait du gouvernement national, plusieurs militaires et des services, tout le monde qui sait comment la Commission nationale de lutte contre la fraude fonctionne, comment elle est composée. Elle sait de ce de quoi on parle. Et il y avait la gouverneure de Lualaba. On a émis la feuille de route au point 8. On demande avec timing précis, on demande à Son Excellence de ce ministre de Mines de mettre de l'ordre dans les entités, de contrôler les entités, leur conformité et leur source d'approvisionnement au mois de décembre. Et cette décision, elle est prise début décembre. Et quand Son Excellence, le ministre de Mines, prend la décision le 19 décembre, on dit qu'elle n'est pas prise au bon moment. Parce que c'est vers les faits. Mais là, on dit que c'est irréaliste. Parce que le ministre Pacabomba a pris cette même mesure au début de l'année. Les gens ne voulaient pas de la même mesure. On disait qu'elle était mauvaise, que ce n'était pas le bon moment. Après tout, au niveau du gouvernement, on se demande quel est le bon moment pour prendre une mesure qui doit assainir le secteur. Quel est le bon moment pendant lequel il faut prendre une mesure qui doit mettre en application l'instruction de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, communiquer en Conseil des ministres. Quel est le bon moment pendant lequel on doit être on doit prendre des mesures pour inviter, exiger aux parties prenantes du secteur minier artisanal de respecter la loi et de l'appliquer. Nous comprenons les uns les autres. Les travaux, quand on est arrivé au Lualaba pour faire le travail, on sait comment, au début, l'allure que la société civile et les coopératives avaient. Mais quand nous les avons associés aux travaux, quelques 30 minutes après le début des travaux, toutes les parties prenantes qui nous avaient rejoints ont changé de langage. Ils ont compris le bien fondé de cette mesure et les travaux continuent dans le Haut-Katanga en exécution les instructions de la haute hiérarchie et aussi en veillant que la loi soit appliquée. On ne va pas laisser le secteur être tel qu'il est parce que il y a des gens qui se disent n'ont pas été consultés alors que la loi ne demande pas qu'on consulte les gens pour prendre la mesure. Il y a des mesures qui sont prises par l'État. Qui? L'État qui a des comptes à rendre et sur la sécurité nationale, sur la bonne gestion des ressources naturelles. Quand l'État prend des mesures et que les gens disent qu'on n'était pas consulté, ben là on se moque de l'État, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le rôle de l'État.
Oui, mais
les entités sont très bien informées.
Oui.
Elles ont été mises en demeure, elles ont été mises en garde avec des gens en leur annonçant les mesures qui seraient prises et il était temps de prendre cette mesure. C'est pour l'intérêt national, c'est pour l'intérêt des artisans et des coopératives, parce que beaucoup d'entités, presque toutes, n'ont pas de contrat avec les coopératives, comme la loi l'exige. Des entités, donc dans leur actionnariat, il n'y a pas le pourcentage qui est prévu pour les Congolais, comme la loi l'exige. Donc, les entités n'ont pas dit nécessairement, tant ils n'ont pas les contrats avec les coopératives, ça veut dire que comme la loi l'exige, ils n'ont pas donné leur source d'approvisionnement. Ce sont des erreurs aussi que nous partageons, nous, administration, ou nous, gouvernement, et qu'on est en train de corriger. Donc, c'est ça la position du ministère de Mines qui fait partie du gouvernement, de la Commission nationale de lutte contre la fraude, et qui est aussi en train d'appliquer les instructions de surveillance de M. le Président de la République, et c'est ce qui est le plus important.
Monsieur,
on a fait
déclarer
une maladie, parfois les gens sont mauvais, les gens font mal, mais après les gens vont se rendre compte du bienfait du travail qu'on est en train de faire.
Monsieur Franck Fouamba, vous avez décidé d'élever partiellement cette mesure. C'est à cause de la pression de la rue, de la pression des mineurs artisanaux, ou c'est parce que vous êtes quand même avancé dans les travaux au sein de la Commission?
Merci pour la question. Le travail s'est fait, il n'y avait pas de pression. Et là on doit féliciter la province du Lualaba, précisément son Excellence Madame Sissi Masuka, le gouvernement et les comités provinciaux de sécurité qui ont veillé que le travail se fasse bien. Nous devons aussi féliciter les entités de traitement du Lualaba qui ont compris que ce n'était pas un jeu, que l'État avait droit de faire ce travail. Nous devons féliciter et remercier la société civile du Lualaba, les coopératives, les négociants et les artisanaux qui avaient envoyé les délégués avec lesquels nous avons travaillé. Travailler pour faire ce travail, et pour exécuter la mesure. Il n'y a pas eu pression pour la relaxation de la mesure. C'était l'instruction de son Excellence, Monsieur le ministre de Mines, déjà au départ. Vous allez là-bas, vous enquêtez, et dès que vous avez fait le travail de contrôle, vous êtes prêts. Vous faites les recommandations et on lève la mesure. Quand on a levé la mesure, on l'a levé momentanément. On l'a levé momentanément parce que maintenant, comme il est dit dans le communiqué, on passe au cas par cas. La mesure était là pour que les gens comprennent que l'État existe et qu'on fasse le travail. Et maintenant, nous l'avons annoncé, nous allons passer au cas par cas. C'est-à-dire que nous avons reçu les dossiers de chaque entité, on les analyse au cas par cas et chacune, comme on a dit, sera notifiée selon ce qui lui est reproché ou ce qui a été trouvé par la commission. Donc il n'y a eu aucune pression, ce n'est pas une mesure qui a été prise sous commission, elle a été prise en toute responsabilité, elle a été prise en toute objectivité, parce qu'on s'est dit, ok, on a contrôlé, à ce niveau on a contrôlé, on voit ce qu'il y a, maintenant c'est le temps maintenant de notifier, et chacun sera notifié sur son sort. Donc il est dit, déjà l'arrêté institué à la commission ou l'arrêté suspendant, n'avait pas dit qu'on suspendait les arrêtés pour toujours, plutôt les entités pour toujours. C'était une suspension qui ne dépassait pas le délai légal. C'était une suspension pour faire le travail qu'on est en train de faire, qu'on a fait dans le Lualaba et qui continue dans le Haut-Katanga.
Bien. Monsieur Maître Shadrach Moukad Ndnaw, une réaction par rapport à ce qui vient, à tout ce que les auditeurs ont dit tout à l'heure.
Merci, Monsieur Zoubi. Je vois Monsieur Achille qui a parlé qu'il était important que le ministère puisse penser d'abord, peser les conséquences de la décision avant de la prendre. Comme je l'ai dit, la décision concernait les entités de traitement avec effet sur les exploitants miniers artisanaux. Nous avions aussi proposé à la commission, à travers le président de la commission, Monsieur Franck Fomba, qui venait de parler ici, et comme il a dit, tout ce qu'il a dit, c'est tellement fondé, et nous avions sollicité la participation de la société civile, ce qui a été le cas, c'était pour s'enquérir ou s'assurer de la transparence des travaux. Et il est vrai, penser ou peser les conséquences de la décision, nous avions pensé que le secteur, il est un secteur très sensible. Les creuseurs ne sont pas toujours fous comme on les pense. Il est important parfois quand si le ministère avait précédé la commission pour expliquer ce qui adviendrait, je pense qu'on n'aurait pas enregistré beaucoup de résistance. Les creuseurs pouvaient même épouser la mission, épouser les objectifs de la mission, accompagner la mission comme M. Franck l'a dit. Aujourd'hui, les coopératives qui pensaient que c'était en leur défaveur, tout comme la société civile qui avait essayé de prendre une position. Et après vérification, vous voyez qu'on s'est approprié la mission, toutes les parties prenantes se sont appropriées la mission. C'est ce que M. Achille voudrait dire. Et même le ministère, nous interpellons prochainement, nous soutenons les actions qui visent à améliorer les secteurs, réformer les secteurs. Nous soutiendrons toujours les actions et nous voudrions, nous en tant que société civile, voir l'État se faire sentir, voir le pouvoir ou l'autorité de l'État qui se fait sentir partout dans tous les secteurs de la vie. Et c'est important pour nous, je l'ai dit, sur une émission, dans une émission à Colouzi. Et lorsque nous affaiblissons l'autorité de l'État, c'est un danger pour la République. Il faut éviter. Il faudrait que l'État, lorsqu'il pose ses actes, il faut que les gens puissent...
C'est conformé.
Laisser l'État s'affaiblir, c'est la gêne qui s'installe et c'est le chaos. Et personne ne trouvera son compte. Nous avons salué le travail qui a été fait. Mais prochainement, c'est bien d'associer les partis. Et ça veut dire précéder peut-être la vulgarisation, comme M. Tchikala l'a souhaité, pour montrer d'abord les bien fondés des faits qui arrivent, afin que les parties prenantes s'associent ou s'approprient la mission, accompagnent. Et il y a M. Maître Ngandou qui a dit les bien fondés, qu'est-ce que signifie la légalité, ça vise pas. Et est-ce que ce sont des structures congolaises, M. Franck David? Même vous l'avez dit, ce sont les expatriés en majorité qui détiennent. Il y a une petite exception. Et est-ce que les Congolais trouvent leur compte? C'est ce que M. Franck dit. Jusqu'à ce jour, la plupart des entités, ou en majorité à 90% ou 99%, sont détenues par des expatriés, mais il n'y a pas la participation des Congolais. Nous avons même émis des recommandations pour dire que toutes ces entités où les Congolais n'ont pas de part, que la mission ou la commission facilite pour qu'à l'issue de ces travaux, qu'on ouvre cette brèche, que cette opportunité soit accordée aux Congolais. Et le vrai Congolais, et pas de s'utiliser encore des prête-noms, parce que il y a dans certaines entités, vous trouvez, on vous dit, il est Congolais, mais non, le Congolais n'est qu'un figurant.
Alors que ceux qui tirent les ficelles sont des sujets.
Et la réalité, c'est toujours des expatriés. Il ne faudrait pas aussi que des Congolais pardonnent à cette pratique, puissent favoriser cette fraude.
Oui.
Ce n'est pas important qu'on ne profite pas à la République.
Bien.
Marie-Paul, il a parlé de la gouvernance du secteur, c'est vrai. Et c'est ça même l'objectif de cette mission ou de la commission. C'est la gouvernance du secteur. Il faut que l'État puisse avoir vraiment le contrôle de ce secteur. Nous l'avons toujours recommandé. Et lorsque l'État se met aujourd'hui à rechercher, à maîtriser, à contrôler le secteur, il faut l'appuyer. Les coopératives minières ont toujours décrié le fait que aujourd'hui, les secteurs, ceux qui ont le monopole, ceux qui ont le pouvoir, c'est des expatriés. Et que la République, on voyait comme si la République était celle qui subissait l'influence des expatriés.
Oui.
Nous voulons que l'État agisse et nous soutenons cette mission. Il faudrait que nous continuions. Nous l'avons fait en tant que société civile. à vulgariser, à faire comprendre aux gens le bien fondé de la mission, et c'était pas une mission en défaveur des Congolais, mais c'est la réglementation du secteur, permettre à l'État congolais de faire sentir son pouvoir et de contrôler le secteur au bénéfice de la population.
Bien, merci.
Et aujourd'hui, on a un état, il faut soutenir le travail et nous continuons à demander à l'État de faire des choses prochainement. Eh bien, il ne faudrait pas que M. Franck dise est-ce qu'il faut toujours associer les Congolais. Eh bien, nous disons la participation citoyenne, nous fait participer les bénéficiaires, c'est une très bonne pratique connue aujourd'hui dans la démocratie.
Merci beaucoup, Maître Chadrak. On va accueillir les auditeurs. Jeannot Louemboué, vous êtes à Kolwezi, Ismaël Mompoy, à Lubumbashi, Emina Mwanda, à Bukavu, Maître Charles Anitouri. Jeannot Louemboué de Kolwezi, bonjour.
Monsieur Jeudi, je vous salue. Merci encore une fois du choix du thème. Merci. Je salue les invités et les auditeurs. Nous qui vivons à Kolwezi avions vécu ce de quoi ces Congolais caiseurs étaient capables ou sont capables. J'ai entendu ici dire non, ils ne peuvent pas se comporter comme des petits princes. Mais laissez-moi vous dire qu'ils se sont comportés comme des petits rois. Tout le monde a fui. Nous vivons à Kolwezi et nous parlons du droit de ce que nous vivons ici comme réalité.
Et ils sont tous autour de 250 000 caiseurs artisanaux.
C'est une population de jeunes hommes, majeurs la majorité. Vous comprenez? Qui passent leur journée avec en train de creuser, en train de façonner leur corps physiquement. Ils se sont levés ici, je n'ai vu personne se tenir dire non, de petit prince. Ils se sont comportés en petit roi. Et tout le monde a fui, moi je vous l'ai dit. Avant que l'émission ne commence, un ami venait de m'appeler. Il est de Sikomi, je ne veux pas ici dire son nom. Il a dit hier, il est rentré chez lui, pieds nus. Et il a une douleur au niveau de la main. Donc, vous comprenez que quand on est à la radio, on essaie un peu de formaliser, on essaie un peu de cacher certaines histoires pour que l'image soit bien envoyée. On comprend ça. Mais la réalité, c'est comme une maladie dont on ne veut pas parler. On va mourir un jour. Vous comprenez? La mesure prise par le ministre qui, venant sur le là-bas, avait frôlé la mort, nous disons Dieu merci. Peut-être c'est ce qui est tombé dans la population, on ne sait pas. Elle est bonne. Mais est-ce qu'il y a eu. Ils ont eu à prendre le temps d'expliquer dans des langues nationales à ces caiseurs, à ces 250 000 caiseurs-là, de bouche à oreille, écoutez, le ministre est venu. Voilà c'est pourquoi il est venu. Il constate que quand vous extrayez du minerai, il n'y a pas que ce que vous croyez extraire. Il y a plusieurs minéraux à la fois. Et quand vous allez les vendre à des vils prix, vous croyez être des boss, vous passez à la télé pour, je sais pas, sur Internet pour dire que vous êtes des boss, mais vous n'êtes pas réellement des boss parce que les vrais boss sont ceux à qui vous vendez cela. Parce qu'ils ne trouvent pas que ce que vous croyez vendre, ils trouvent plus que cela. Plusieurs minéraux.
Oui.
Est-ce qu'ils ont pris le temps en amont d'informer dans des langues nationales, pas en français, pas un français, celui qu'on a lu sur ce papier-là, un français plein de mots, pas difficiles, mais des mots français vraiment. Et ils ont eu le temps de vulgariser, d'informer. Parce que peu importe toutes les décisions, peu importe tout ce que les gens disent ici, défendant société civile, les consorts, mais les conséquences, c'est nous qui vivons cela. Est-ce qu'ici, on a le courage de dire que parmi les victimes, il y a aussi des travailleurs? Certains qui se sont fait lapider, immoler. Est-ce qu'on a le courage de le dire ici à la radio? Pourquoi on veut cacher certaines choses? Est-ce qu'on a le courage de dire que le premier cible de ces creuseurs sont des travailleurs? On ne circule plus en tenue ici à Kolwezi. On vous voit avec bottes, jalades, tenues, vous êtes la cible. Et nous n'avons pas de protection comme les officiels que nous avons ici. Est-ce qu'on a le courage de dire ça? Pourquoi on ne peut pas crever l'abcès pour qu'on puisse trouver une fois pour toutes la solution pour que nous qui sommes des inconnus de la République, qui n'avons pas des oncles ministres pouvant parler à notre faveur, puissions être travaillant dans la quiétude.
D'accord, merci Jeannot. On comprend que ces creuseurs artisanaux, voilà, ils s'attaquent à certains agents des compagnies minières,
oui,
qui sont là-bas.
Tous ceux qui mettent des tenues.
Bien, voilà, merci beaucoup pour cette intervention. Ismaël Mompoy, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à tout le monde.
On vous écoute.
Merci beaucoup pour m'avoir envoyé la parole. Je voulais poser la première question de savoir quel a été le sentiment et la motivation qui a incité le ministre de l'AMI de prendre ce genre de décision. Voyez un peu une photo dont vous publiez sur ce sujet sur la page Facebook. Vous comptez combien, à peu près combien de gens, ou combien de milliers de personnes qui sont là. Si cette décision parvenait parfois à entrer en jeu et avec toute efficacité et que ces grévistes artisanaux ne travaillent pas. Suivre un peu l'analyse de la plupart de ceux qui ont commenté, mais ils oublient que nous avons l'article 58 de la dite Constitution révision 2006. Qui est dit qu'il a fallu à ce qu'il y ait le partage équitable des ressources de la RDC. Maintenant, je m'identifie en tant que l'acteur de la société civile.
Oui, allez-y rapidement.
Vous comprenez quand même
allez-y
que,
rapidement, les autres attendent.
Si les sociétés qui sont là, qui travaillent, ce n'est pas tout le monde qui peut travailler là. Même les grésaires, là, même si on prenait autant de gens, sur 250 000 personnes, je ne pense pas que bon nombre de personnes là, c'est quand même régulité. C'est ce que le monsieur Famba dit, que c'est, on cherche à les sauvegarder. Bien sûr que oui, c'est bien. Nous sommes sur Moussombo, à 5 km ou à 3 km, donc, en 2018, sous le gouverneur Mouyesh Manguez-Mans, où on avait voulu, et on cherchait à installer le Métorex pour tester le minerai de Grésaire. Pour savoir quels étaient ces minéraux qui doivent être achetés par ces expatriés et mesures. Mais jusqu'à présent, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que le ministre ou le monsieur Famba tient à dire ce qu'il dit? C'est bien parce que nous avons voulu à ce qu'il y ait de la valeur pour le minéraux. Mais quelle est la valeur fondamentale de la décision à tenir pendant un peu l'exploitation des artisans pour le minerai. Il faut avoir quand même du requin.
Comment ces gens-là se nourrissent? D'accord, merci, on a plus beaucoup de temps.
Ils vendent le minerai au profit des étrangers.
Oui.
Mais qui est responsable? C'est le gouvernement congolais.
D'accord.
Qui a cherché à installer un système, mais qui d'autres sont arrivés, ils sont accommodés de la même manière.
Merci,
dès
Smile.
Aujourd'hui, je pense que
merci, Smile.
Le levant de cette mesure est une bonne chose. Mais allez jusqu'au bout.
D'accord,
qui c'est que nous avons
Monsieur Franck Famba, vous avez suivi les différentes préoccupations. À vous la parole.
Oui. Qui tire profit de ces minéraux-là? Mais comment ils doivent
parler? Et tous les autres. En effet, cette mesure aussi a été prise. Pourquoi? Le ministre, connaissant plus Atum, s'est rendu deux fois dans le Lualaba. Une fois en septembre, c'était pour discuter. Rencontrer les artisanaux, ils les avaient rencontrés chez Saïmapé et sur le site de Amoussonoï, où ils exploitent une carrière. Et puis, il avait aussi pris langue avec la Chambre de Mines pour voir comment ils pouvaient contribuer à trouver des solutions avec le gouvernement au problème des artisanaux à propos des sites tolérés ou qui devaient être concédés dans le cadre de l'article 30 littéra E. Et la deuxième fois, c'est en novembre, quand on a raté le crash, je les avais vus dans l'avion, qui a crashé et Dieu nous avait sauvé la vie. C'était pour aller au chevet des victimes, nos frères de l'éboulement de Moulondo, qui travaillaient dans des mauvaises conditions, et puis c'était ce qui est arrivé. Encore là, la deuxième fois, son excellence, monsieur le ministre, avait encore rencontré les artisanaux chez Saïmapé et était représenté par leur coopérative. Cette mesure a été prise aussi. C'est parce que nos frères, et c'est vrai, c'est connu de tout le monde, qu'ils se plaignent et on les triche en poids, en teneur, en taux d'humidité, en prix, les minéraux qu'ils gagnent. En écologie, je leur ai fait montrer, par exemple, que pendant qu'il y avait, on avait suspendu les exploitations de cobalt, les entités de traitement, les Chinois, étaient en train de prendre les minéraux de cuivre et le cobalt, ils le prenaient à zéro. Ils ne l'achetaient pas, ils le prenaient, ils étaient continués dans le cuivre, ils n'avaient pas de prix. J'ai demandé aux Chinois, j'ai dit aujourd'hui, ok, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez calculer la valeur de ce que vous avez pris gratuitement à nos frères et sœurs pour les leur rembourser? Parce que vous avez les noms de ceux qui ont vendu des minéraux. On veut mettre fin à ce système-là où il y a des cartels, des mafieux, des étrangers qui sont là en train d'opérer et les Congolais ne se retournent pas. On les vole en teneur, on les vole en poids, on les vole en humidité, et ils n'ont pas accès aux entités de traitement. On veut mettre fin à ce système-là. C'est lui, le dernier intervenant, il a rappelé quelque chose de très important. Moussompo. Toutes les dispositions sont prises, effectivement, pour que Moussompo fonctionne avec l'entreprise générale de cobalt. Et c'est d'ailleurs l'instruction, son excellence, monsieur le président de la République, le 13 juin, lors du conseil de ministres, a couru ici. Les batteries sont mises en charge pour que SGC achète les minéraux au taux normal, à la valeur normale, à la teneur normale et au poids normal au centre de Moussompo. Il y a les derniers réglages qui doivent se faire entre la direction du centre de négociation de Moussompo et la province du Lualaba et SGC. Si c'était fait, les opérations devaient commencer depuis hier. Mais son excellence, monsieur le ministre de Mines et madame la gouverneure du Lualaba, sur instruction son excellence, monsieur le président de la République, il veille, il tient que le plus. Donc on est en train d'y travailler, on ne dort pas, parce que ce que le dernier intervenant a dit, c'est vrai, il faut l'alternative. L'alternative a déjà donnée par l'État, c'est que tout passe par le centre de Moussompo, et tout passera par là, pour le Lualaba, et dans l'eau Katanga. Le gouverneur intérimaire Kazembe, il a déjà prévu aussi de construire un centre par lequel tout devra passer, pour l'intérêt des artisanaux et pour l'intérêt des Congolais. À propos de ce qu'il y a eu des manifestants, nous sommes en communication journalière, Maître Chadak le sait, avec les présidents, les responsables des syndicats des coopératives du Lualaba. Nous avons Petit Ngombe, nous avons Jean-Claude Tchouéwe, nous avons chez les négociants, nous avons Moultra, nous avons aussi chez les artisanaux des gares comme Niarkos. Quand nous les appelons et quand on les contacte, quand la gouverneure les contacte dans notre présence à Kolwezi, ils disent, Excellence, ce ne sont pas les artisanaux qui sont en train de casser les trucs d'autrui. Les artisanaux, nous sommes calmes parce que nous sommes en train de travailler avec la commission.
Mais qui les font
alors? Il y a des badauds, des gens qui ont été drogués, qui ont été manipulés. Je suis en train de le dire. Et je suis en train de le dire, j'ai cité les noms de gens, on vous passera le numéro pour que vous appelez ces gens-là. Ils vous diront qui ont fait. Ce sont des badauds qui doivent avoir été manipulés par certains lobbies, effectivement, des lobbies mafieux, des étrangers. Et là, ce n'était plus pour dire non, c'était plus pour dire que non, on a bloqué. C'est pour dire non, voilà, et nous avons les minéraux qu'on n'exporte pas, et voilà, tout ça, c'est le gouvernement. Ce ne sont pas des artisanaux. Les artisanaux de Kolwezi, de Lualaba, comme ceux du Haut-Katanga, nous leur avons parlé. Ce sont des gens qui prennent conscience, qui ont compris que la situation doit s'améliorer pour eux et ils accompagnent cet arrêté.
Monsieur Franck,
ceux qui ont manifesté, ce sont les gens qui n'ont rien fait avec l'artisanat.
Oui.
Ce sont des gens qui ont été manipulés pour le faire. Je vous dis que les vrais artisanaux, ils sont représentés par Petit Ngombe, ils sont représentés par Jean-Claude Tchouéwe, il y a Moultra pour les artisanaux, il y a les Niarkos.
Monsieur Franck,
nous avons travaillé avec eux. Monsieur
Franck,
quand on les appelle jusqu'à la fin, ils soutiennent ce qui est en train d'être fait.
D'accord, désolé, on n'a plus de temps, c'est déjà la fin de l'émission. Et voilà, si vous êtes d'accord, on pourra y revenir prochainement. Je rappelle que vous êtes le chargé des missions du ministre des Mines et président de la commission pour le contrôle de la chaîne d'approvisionnement des entités de traitement du secteur cuprocobaltifère. Merci également à Maître Chadrak Moukad Mouai Ennaou, qui est le président et porte-parole du cadre des concertations de la société civile du Lualaba. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À la prochaine.